Personne ne demandait quel était son âge. Toujours jeune. Voilà, donc je vous invite à... On peut lancer mon PowerPoint. À parler ce matin de l'ascension. c'est thème imposé ce matin, c'est pas thème au choix. Non, je rigole. Mais je ne sais pas si vous avez un peu médité sur l'ascension ce week-end. Hein? Non, vous étiez trop fatigué de tout ce qu'il y a en ce moment dans le mois de mai, où vous vous êtes reposé. Vous n'avez pas eu le temps d'y réfléchir, si vous y avez pensé. Je ne sais pas, dans notre liturgie évangélique, je ne parlerai pas de les calendriers des fêtes catholiques ou protestantes, mais dans notre culture protestante évangélique, il n'y a pas beaucoup de fêtes qu'on marque, en fait. Il y en a en tout cas une ou deux, je pense qu'on appuie particulièrement. C'est lesquelles ? Noël, Pâques. On devrait dire Pâques en premier, hein, parce que Pâques est plus important que Noël encore. Bon, les deux vont. S'il n'y a pas eu Noël, il n'y a pas Pâques. Hein. Donc, c'est vrai qu'on met... Ah, la Pentecôte, oui, oui. Et ça, c'est vrai que Noël et Pâques sont beaucoup plus marqués. Pentecôte un peu moins, mais plus dans le milieu charismatique et pentecôtiste. Mais pas dans toutes les églises, c'est pas toujours marqué. Dans le sens où on prend du temps pour ça. Et une fête qui passe un peu souvent comme ça, entre Pâques et Pentecôte, c'est l'Ascension. Et l'Ascension, on a plus de peine à comprendre les symboles, qu'est-ce qu'il y a derrière l'Ascension. Pâques, c'est très clair. Et je remercie Daniel qu'on ait fait la Sainte-Cène avant le message, parce que vraiment, Pâques, c'est la mort et la résurrection de Christ. Et l'ascension, c'est l'élévation. Donc, on a commencé par la mort et la résurrection, et on va passer à l'élévation aussi de Christ. Et très souvent, on comprend bien Pâques, les symboles liés à Pâques. On comprend bien Pentecôte, le Saint-Esprit qui est donné, la naissance de l'Église. On comprend bien toutes ces choses-là. Mais l'ascension, qu'est-ce qui se passe ? Et on réduit souvent l'ascension à juste la montée au ciel de Jésus. Et il me semble que c'est trop réducteur, et ça ne montre pas assez tout ce qu'il a fait à ce moment-là. Et j'aimerais m'y arrêter ce matin. Et je ne sais pas si vous connaissez la plus vieille confession de foi de l'Église chrétienne. Vous savez, l'Église primitive a écrit le Nouveau Testament, et après la deuxième, troisième génération, ont synthétisé toute la doctrine chrétienne dans une confession de foi. Vous la connaissez ? C'est le symbole des apôtres. Un peu de culture chrétienne. Donc, c'est la plus ancienne confession. Si vous croyez en Jésus ce matin, eh ben, on va lire ensemble cette confession de foi. Vous croyez en ça. Alors, si vous ne le saviez pas, ben, ce matin, vous allez le découvrir. Mais c'est une sorte de résumé en 12 points. Et vous voyez, je vais vous la lire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Là, on est à Noël, incarnation. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Là, on est à Pâques. Il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Là, on est à l'Ascension. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Ça, c'est le retour du Christ. Il va redescendre et revenir. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église universelle, à la communion des saints. Ça, c'est Pentecôte. Et c'est la dispensation dans laquelle on est. La rémission des péchés, la résurrection des corps. Ça, c'est le jugement dernier, la fin des temps, quand on aura notre corps éternel. Et la vie éternelle. Amen. Le symbole des apôtres. Et le credo dit, il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et vous avez vu que ça commence par le « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Alors, ça a commencé dans le ciel et ça a fini dans le ciel, la mission de Jésus. On va le voir ça ensemble. Et j'aimerais vous passer un petit extrait de vidéo pour vous imaginer qu'est-ce qui s'est passé quand il est monté aux cieux, quand il est arrivé devant son Père. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je vais faire une analogie avec une autre arrivée triomphale. C'est du temps de l'Empire romain, dans un film qui s'appelle Ben-Hur, pour un film qu'on connaît bien. Et c'est une scène où justement Ben-Hur sauve Arius pendant avec Arius, c'est cet homme romain qui gagne une grande victoire et il vient recevoir le triomphe de cette grande victoire qu'il a vécue. Et je vous laisse juste regarder ce petit extrait. Alors, comme toujours, si on peut aussi un peu éteindre les lumières et puis comme ça on voit mieux peut-être la vidéo parce que c'est assez sombre. Si on peut éteindre, c'est volontiers. Il y a du son, alors faut monter le son. Hein. Ça, c'est l'empereur romain.
Tu as débarrassé nos routes maritimes d'un grand danger, Quintus Arius. Ce bâton de victoire fut noblement gagné.
Ça vous donnera peut-être envie de voir la suite. Voilà, très bien. Voilà, c'est un petit extrait de ce qui s'est passé sur la Terre dans un des royaumes les plus puissants de l'époque, l'Empire romain, et avec l'homme le plus puissant de l'époque, l'empereur romain, et qui remet voilà, ce bâton de victoire à Arius. Et ben, c'est cette scène qui s'est passée dans le ciel. Quand Jésus est monté au ciel, en fait, il était descendu du ciel. Dieu l'avait envoyé en mission. Sa mission, c'était de faire son œuvre, ce qu'il a dû faire. Et quand il a accompli tout ce qu'il devait accomplir, quand il a terminé sa mission, qu'il a remporté la victoire, qu'il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais il n'est pas juste monté comme ça, mais il est arrivé triomphant avec l'armée des cieux, toutes les puissances spirituelles qui étaient là. Qui l'ont vu arriver devant son père. Il est revenu vers son père et dire, dans un triomphe de joie, d'acclamation des anges, des puissances, essayez d'imaginer une scène bien plus glorieuse de Dieu qui est bien plus puissant que l'empereur romain de l'époque. Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui est tout puissant, son père qui attend l'arrivée de son fils pour lui dire, pour lui remettre tout honneur, toute gloire pour sa mission accomplie. C'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ, du Seigneur dans les cieux, l'Ascension. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il reçoit à ce moment-là le plus excellent de tous les noms. L'ascension, c'est le Père qui fait entendre sa voix en disant à son Fils, devant toutes les puissances, toutes les autorités, bonnes ou mauvaises, qui lui dit, Jésus, tu es maintenant le Seigneur, le Maître de l'univers, mon Fils. Je te donne le sceptre de l'autorité. Il ne lui donne pas un sceptre de son royaume terrestre, mais il lui donne le sceptre de l'autorité sur tout ce qui se trouve dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans le monde visible et dans le monde invisible. Il reçoit toute autorité à ce moment-là. Lui qui a accepté de s'abaisser, lui qui a accepté de quitter la gloire, de descendre, d'obéir à son Père, de se rendre humble jusqu'à la mort de la croix, comme on l'a vécu tout à l'heure, d'avoir... Ce n'était pas si facile que ça, ça a été un combat. Et le voilà maintenant élevé par le Père. C'est ça l'ascension. Ce n'est pas juste la montée de Jésus devant ses disciples. C'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans le ciel, dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Et Dieu qui lui dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Extraordinaire, extraordinaire. Et j'aimerais relever plusieurs éléments qui se sont passés à ce moment-là, spirituellement, qu'on comprenne l'importance de cette fête et qu'on puisse, ça puisse nourrir notre foi et changer notre perspective de voir l'ascension et d'entrer dans ce que j'appellerais l'état d'esprit de l'ascension. L'état d'esprit de l'ascension. Nico, tu peux noter ça comme titre pour le message, si jamais. L'état d'esprit de l'ascension, ça me plaît bien. Alors voilà, donc premier point que j'aimerais vraiment relever avec vous, c'est que le Seigneur, l'ascension, qui se trouve donc entre Pâques et Pentecôte, donc l'ascension se trouve 40 jours après Pâques, d'accord ? Et 50 jours après Pâques, c'est Pentecôte, dans une semaine. Donc l'ascension, qu'est-ce que c'est entre Pâques et Pentecôte, en fait ? Quelle est sa place, en fait ? Quelle place on peut lui donner ? Je pense que l'ascension, c'est le point final de l'œuvre de Jésus-Christ. Très souvent, en tant que chrétien, on pense que tout se concentre à Pâques. Mais c'est faux. À Pâques, Jésus est mort, mais il est ressuscité à Pâques, et on s'arrête là. Et on pense que le summum de l'œuvre du Christ, c'est la résurrection, c'est le point final. Mais non, ce n'est pas le point final. Le point final, c'est quand il entre dans les cieux devant son Père et qu'il s'assoit et qu'il reçoit toute autorité. Il est là, le point final. Le point final du tout accompli à la croix, il est là. On pense souvent que le tout accompli, c'est quand Jésus le prononce au moment de mourir sur la croix, il dit « tout est accompli ». Oui, tout est accompli prophétiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il le dit, il sait qu'il a remporté le combat, justement, sur terre. Et il sait qu'à partir du moment où il meurt, plus rien ne va l'arrêter. Plus rien. Plus rien ne pourra l'arrêter jusqu'à cette ascension et jusqu'à ce point final. Donc quand il dit « tout est accompli », c'est prophétique aussi. Certes, tout est accompli là, mais le vrai accomplissement final, le salut qui est scellé, il est scellé où ? Pas sur terre, il est scellé dans le ciel. Amen. Parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait. Parce que Jésus, en entrant dans le ciel, il est venu avec quoi dans le ciel ? On dit souvent que Jésus, il a payé la dette de notre péché. Il a payé la dette, il a payé la rançon, mais il ne l'a pas payée à Satan. Il l'a payée à son Père. C'est une dette qu'il a rendue à Dieu. Donc quand Jésus meurt, son sang coule, il prend son sang et il monte dans le ciel. Et il entre où ? Dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, et il vient avec le sang précieux, le prix de sa vie, le prix, le sang qui a coûté, le sang pur et sans tache, et il le présente à Dieu. Et là, dans le ciel, il scelle l'alliance pour toujours. Et le pouvoir du sang de Jésus prend sa puissance à partir de là. Parce que le pouvoir du sang de Jésus, il s'élève, il monte dans le Saint des Saints et il est là devant Dieu et il est élevé au-dessus de toute puissance, de toute autorité. Vous comprenez la force de ce qui s'est passé à l'ascension. Jésus, c'est le souverain sacrificateur par excellence. Vous savez que le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, c'était quoi le rôle du souverain sacrificateur ? C'était d'offrir des sacrifices à Dieu et d'intercéder pour le salut du peuple. C'est-à-dire qu'à cause du péché, la colère de Dieu demeure sur nous. Et on ne peut pas atteindre Dieu à cause du péché. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait tout un système sacrificiel pour couvrir nos péchés, pour apaiser la colère de Dieu. Et les sacrifices sont d'une bonne odeur à Dieu. Il y a les textes qui disent sont agréables aux narines de Dieu, littéralement en hébreu. Donc, il y a quelque chose d'agréable à Dieu, les sacrifices. Et les souverains sacrificateurs et tout le système sacerdotal et les prêtres offraient des sacrifices pour apaiser, pour permettre à Dieu de nous tolérer dans sa présence. Et ils intercédaient pour le peuple. Ils étaient comme des médiateurs entre Dieu et les hommes pour permettre la connexion. Mais c'était l'Ancien Testament. Et le souverain sacrificateur, une fois par année, il devait d'abord se purifier de ses propres péchés. Tout un système pour se purifier. Et après, il entrait dans le Saint des Saints, une fois par année. Le Saint des Saints qui était le lieu le plus saint sur terre à cette époque-là. C'est-à-dire que c'était là où il y avait la présence de Dieu, la Shrina, la Shekina en hébreu. C'est-à-dire que la présence de Dieu était là sur l'autel, l'arche de l'Alliance, entre les deux anges, entre les deux chérubins. La présence de Dieu était là, manifeste. Et il entrait une fois par année avec le jour du grand pardon, le jour vraiment où on amenait ce sacrifice pour tout le peuple. Une fois par année, il amenait ce sacrifice là. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus l'a fait une fois pour toutes et a apporté un sang bien plus supérieur à celui des boucs et des taureaux et des ânes et de tout ce qu'on peut imaginer. Il a apporté son sang et il est entré dans le lieu le plus saint de tout l'univers, du spirituellement. C'est là où il y a la présence de Dieu, là où Dieu est sur son trône, là où les séraphins sont autour de Dieu et crient jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Et là, dans ce lieu le plus saint, devant toutes les puissances, devant tous les anges qui sont là, Jésus est entré et est venu avec son sang pour nous. Et imaginez, il a intercédé pour nous. Il a commencé à dire, voilà, je viens pour le salut des êtres humains. Je viens pour que la condamnation soit plus sur eux, alors qu'ils sont pécheurs. Et je viens intercéder. Et je viens faire ce rôle de souverain sacrificateur. Voici quelques versets qui nous parlent du rôle de Jésus. C'est beaucoup dans l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, qui traite cette question-là. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, c'est Jésus, c'est l'ascension, il a traversé les cieux pour nous. Demeurons fermes dans la foi. Nous avons cette espérance comme une ancre de l'âme. Jésus est entré comme pour nous, comme précurseur. Imaginez, dans le ciel, il y a un homme. Il y a l'humanité qui a été élevée grâce à Jésus. Il y a un homme dans la présence de Dieu. À la droite de Dieu, il y a un être humain, pas un ange, pas une puissance. Un être humain, Jésus. C'est un précurseur pour nous parce qu'il va nous y emmener. On y reviendra. Christ est venu comme sacrificateur des biens à venir. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le ciel, c'est l'ascension. Il est là, le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Amen. Extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur depuis là-haut? Il intercède pour nous. Son sacrifice est toujours efficace aujourd'hui, est toujours en travail. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, ça c'est l'ascension. Et il intercède pour nous, pour toi, pour moi. Extraordinaire. Extraordinaire. Nous avons un avocat auprès du Père. Le Jésus-Christ, le juste, lui le juste, il peut prier pour nous, il peut nous défendre face aux accusations de l'ennemi, parce qu'on est accusé, parce que l'ennemi veut des droits sur nos vies. Et lui, il nous défend devant le Père. Ça donne une autre perspective à l'ascension, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas si, comment vous imaginez comment Jésus est monté au ciel. Moi, j'essaie de m'imaginer, ce n'est pas dit dans le texte. Donc, c'est dans le texte de Acte 1, vous pourrez lire. Il est avec ses disciples. Il pose sa main sur eux, j'imagine, hein. Il est avec ses disciples, là, c'est le dernier moment, ils se font des hugs, peut-être. Ils sont désespérés, les disciples, ils disent, mais on t'a à peine retrouvé, tu pars déjà? Ça doit être terrible. Mais en même temps, voilà, Jésus leur avait dit, je vais envoyer ce que le Père a promis. Et voilà, sans doute qu'il les a bénis, il a posé sa main sur leur tête, il a posé la main sur leur épaule, en signe de fraternité. Et moi, je pense qu'il s'est élevé comme ça, les mains, en les bénissant, en priant pour eux. J'aime imaginer cette scène-là. Il est monté au ciel comme ça, en les bénissant. Et il est toujours dans le ciel, les bras comme ça, en train de nous bénir, en train de prier pour nous, en train d'intercéder pour nous. Il est de notre côté. Il est avec nous. Gloire à Dieu. Et on peut dire que l'ascension, c'est vraiment le summum de l'œuvre. Il a scellé l'alliance pour que plus rien nous sépare de Dieu. Je veux dire, avec l'ascension, c'est le point final. Il n'y a plus rien qui peut nous empêcher d'être séparés de l'amour de Dieu. Plus aucune puissance, puisque son sang et son autorité a été au-dessus de toutes les puissances. Il n'y a plus rien qui peut se passer entre nous et Dieu. Et toute la gloire lui revient aussi. Et c'est important de penser à l'ascension et pas de confondre, de passer de Pâques à Pentecôte, à l'Église, parce que l'œuvre du Christ n'a rien à voir avec l'œuvre de l'Église, ce que nous faisons. L'œuvre du Christ est parfaite. Bien sûr que nous sommes appelés à faire les œuvres du Christ, mais ce que Christ a fait, personne ne peut le faire. Aucun membre de l'Église, aucune personne, aucun être humain n'a pu faire ce que Christ a fait. Et c'est important qu'il y ait vraiment cette Pentecôte, cette ascension qui marque vraiment une césure, un point final à l'œuvre du Christ. Deuxième donnée qui nous fait entrer dans l'état d'esprit de l'ascension. Jésus, il monte au ciel et il dépose son sang sur l'autel céleste. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Il nous permet d'avoir accès au Saint-Esprit. C'est la grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que le Saint-Esprit peut être en nous maintenant. Et le Saint-Esprit est descendu en Pentecôte dans l'Église, mais il est toujours, il peut descendre. Alors je vous donne une image qui peut nous aider, une analogie, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Il faut s'imaginer que Dieu est au ciel. Donc le ciel, ce n'est pas forcément après Mars et Neptune et Vénus. C'est pas le cosmos, c'est immense. C'est dans le monde spirituel. Vous comprenez? Le monde spirituel, on est dans le monde matériel. Je fais un pas, je suis dans une autre dimension, je suis dans le monde spirituel. Vous êtes d'accord, hein? Ça, juste pour... je sais qu'il y a un physicien ici. Il faut que je fasse attention à ce que je dise. Mais il y a des profs ici. Mais c'est un autre monde, le monde spirituel. Ce n'est pas un monde comme le monde matériel. Donc... quand on dit qu'il est monté, c'est l'élévation, mais c'est cette idée que quelque part, dans le monde spirituel, il y a le trône de Dieu. Vraiment, l'endroit le plus saint, c'est là où est Dieu. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de péché. Il y a le royaume de Dieu, la volonté de Dieu est parfaite. Et nous sommes sur terre. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous étions en connexion avec Dieu, mais cette connexion a été coupée entre le monde spirituel et le monde physique. Même si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes pécheurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Entre le ciel et la terre, pour imaginer, il y a les nuages, ou il y a quelque chose qui est là, qui est en fait, entre ces deux mondes, il y a le monde de Satan et ses anges. Et il y a une opposition, ils sont là pour faire opposition à cette reconnexion entre le spirituel, entre Dieu et nous. Et quand nous prions, c'est comme s'il y a un mur qui verrouille. Et le diable nous accuse, dit, mais tu ne peux pas accepter leurs prières. Ils sont pécheurs. Tu ne peux pas écouter leurs prières. Et nos prières butent contre cette opposition, contre ce mur, contre ces nuages de plomb, je ne sais pas comment, ce mur, ce dôme de verre. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est sans péché. Rien n'a pu le retenir. Et quand il s'est élevé dans le ciel, il a éclaté. Il a éclaté ce mur. Il a ouvert une voie entre le ciel et la terre, une connexion entre le ciel et la terre. Il a, je vais utiliser un mot fort, défoncé l'argumentaire de l'ennemi qui accusait à ce moment-là, qui disait, mais il ne pouvait rien accuser Christ. Donc il a traversé toutes ces puissances de l'air, toutes ces puissances spirituelles, et il est passé au-dessus d'eux. Et il s'est assis sur le trône. Il a ouvert un chemin, un accès auprès du Père. Et il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a personne d'autre. Il y a un seul chemin, une seule voie. Et il a ouvert un canal qui est maintenant ouvert en lui. Et tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui s'adressent par Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ, peuvent atteindre le Père. Nos prières maintenant, alléluia, elles peuvent percer le ciel. Alléluia, c'est extraordinaire. Et celui qui croit en Jésus, non seulement ses prières peuvent percer, mais Jésus peut envoyer son esprit. Alléluia, et ça va dans les deux sens. Maintenant, c'est ouvert pour que le Saint-Esprit descende. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, je vous enverrai mon esprit. Et l'ascension a permis, a ouvert la voie pour que le Saint-Esprit descende. Sans l'ascension, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous remplit. Et ce canal est un canal qui nous baptise de l'Esprit. C'est un canal où Dieu déverse ses dons, donne les dons spirituels. C'est un canal aussi où Dieu nous remplit de son Esprit et déverse les fruits de l'Esprit dans nos vies. C'est un canal où Dieu va donner les ministères. Dieu a dit que Dieu les ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, tous ces ministères-là sont des dons de Dieu, que Dieu a donné à des hommes, Dieu a choisi des hommes, et Dieu envoie par ce canal-là des ministères pour le perfectionnement de l'Église, pour le perfectionnement des saints, pour la construction du corps spirituel qu'est l'Église. Merci Seigneur, quelle grâce, merci pour les ministères, merci pour l'Église, merci pour tes dons. Et Dieu veut donner, Dieu veut envoyer, tout est là, tout est ouvert. Dieu veut répandre ses dons. Troisième donnée qui nous fait entrer dans l'état d'esprit de l'ascension, je vais relever quelque chose qui s'est produit aussi à l'ascension, qui est fondamental, c'est la notion d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a le sang de Jésus que Jésus apporte vraiment, ce canal ouvert, le Saint-Esprit qui descend, mais il y a aussi Jésus reçoit toute autorité. Quand il est dit qu'il s'assoit sur un trône, vous savez très bien que les rois et les reines s'asseyaient sur des trônes. C'est un symbole qui veut dire puissance, autorité, pouvoir. C'est le symbole de ça, c'est le symbole de... Aujourd'hui, on a des présidents, on a des responsables, on n'a plus des rois et des reines avec des couronnes qui symbolisent tout cela. Mais c'est toujours le même principe, c'est des gens qui ont reçu un pouvoir pour exercer, une autorité à exercer. Et Jésus, à l'ascension, il a reçu cette autorité, cette puissance, puisqu'il s'est assis à la droite de son Père sur le trône. Et dans Éphésiens... On va lire ce passage. On a lu ce passage lors de la soirée dans la présence de Dieu. Et je vous invite à y venir. Parce que vraiment, c'est des moments où le ciel est ouvert. Où on prie sur ces versets. On prend le temps. Parce que des fois, on n'a pas toujours le temps le dimanche matin. Mais venez à ces rencontres. C'est important. C'est important de... Il se passe des choses, vraiment. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être dans l'esprit de l'ascension, venez dans la présence de Dieu. Que ce soit chez vous ou à nos rencontres. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la glorieuse richesse de son héritage. Retenez ça, la glorieuse richesse de cet héritage. Au milieu des saints. Quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Pâques et ascension, ça va ensemble, comme je vous le disais. C'est pas tout est à la résurrection. Non, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de quoi ? De toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, et au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle à présent, mais encore dans les siècles à venir, c'est-à-dire pour toujours. Il a tout mis sous ses pieds, et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné Christ comme chef suprême à l'Église, qui est quoi ? Son corps. Nous sommes le corps de Christ. Vous imaginez ? On est le corps de Christ. Qui c'est qui a reçu toute autorité ? Ce n'est pas nous, c'est Christ. Mais nous sommes son corps. Donc nous sommes au bénéfice de son autorité. Et Dieu a donné à son Fils, et son Fils nous la donne. C'est comme ça que ça marche. Imaginez, il y a des puissances bien plus anciennes que nous dans le monde spirituel, des pouvoirs et des autorités, bien plus anciennes que nous, bien plus puissantes que nous. Et nous sommes le corps du Christ, donc nous sommes au-dessus de ces puissances. Vous imaginez l'humiliation pour ces puissances ? Qui se disent, mais waouh, comme elle doit être en colère contre nous. Les mauvaises, hein, pas les bonnes. Les bonnes puissances, les anges, sont admiratifs, essaient de comprendre ce qui se passe. Mais Dieu nous a donné à toi, à moi, cette position. Parce que tu es le corps du Christ. Pas parce que tu la mérites, juste parce que tu es le corps du Christ. Et si tu es le corps du Christ, et même si tu es dans le corps du Christ, la partie la plus basse du corps du Christ, c'est-à-dire le pied, tu es au-dessus de ses puissances. Même si tu es le gros orteil ou le petit orteil, tu es au-dessus de ses puissances. Arrête de te regarder comme un petit orteil. Regarde-toi comme au-dessus de ses puissances. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Et ça, ce n'est pas réservé à une élite, on y reviendra. Moi, je trouve ça complètement fou. Je ne sais pas si vous partagez mon enthousiasme ce matin, j'espère. Petite analogie avec la police. J'espère que ça va te problème avec les policiers. Ce n'est pas une amende dernièrement. Le policier est au bénéfice de l'autorité qui lui est conférée par quoi ? Par le corps de police. Vous savez que dans la façon de penser des policiers, moi j'ai appris ça parce que mon beau-frère vient de finir l'école de police. Il va être assermenté bientôt. Et il m'a parlé, il m'a dit c'est le corps de police. Je lui ai dit, ah bon ? Vous vous dites ça comme ça ? Oui, c'est le corps de police, c'est un corps. Il y a plusieurs corps de police d'ailleurs. Donc, le policier, il est au bénéfice d'une autorité qui est parce qu'il fait partie de ce corps de police. Il n'est pas au bénéfice de cette autorité parce qu'il est meilleur qu'un autre policier, plus exemplaire, ou parce qu'il a bien réussi l'académie de la police, en se disant « j'ai eu la meilleure note de tous mes camarades ». Il n'a pas plus d'autorité que les autres. Mais parce qu'il fait partie du corps de police, ça ne dépend pas de lui, il est au bénéfice de cette autorité. Alors, comment ça se traduit, déjà symboliquement, cette autorité ? Bah déjà par une tenue, vous êtes d'accord, hein ? On les voit bien, on les reconnaît. Ils ont une tenue qui est liée à leur corps de police, avec une couleur bien particulière, et même des écussons, suivant aussi leur grade, suivant voilà, qu'ils sont dans le corps de police. Et voilà, tout. Et qu'est-ce qu'ils ont aussi de particulier ? Bah, ils ont une arme. Ils ont le droit de porter une arme. Parce que non seulement ce symbolisme dans leur tenue, mais comment ils exercent leur autorité, quels sont leurs pouvoirs ? C'est qu'ils ont le droit de porter une arme et de l'utiliser. C'est assez dissuasif, vous êtes d'accord, hein ? Donc, quand il arrête quelqu'un dans la rue et qu'il vous demande votre carte d'identité, vous vous exécutez. Parce qu'il a ce pouvoir-là. Allez, samedi prochain, faire vos courses ou là, bientôt, allez arrêter les gens dans la rue et demander leur carte d'identité. Regardez s'ils vont vous la donner. Ils ne vont pas vous la donner, ils vont vous rire au nez. Donc, il est au bénéfice d'une autorité. Et ce n'est pas parce qu'il est meilleur qu'un autre. Et nous-mêmes, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes partie du corps de Christ ? La Bible dit que nous avons revêtu Christ, nous avons une tenue dans le monde spirituel. Une tenue qui nous distingue. Et nous avons une place, une autorité qui nous est déléguée et qu'on peut exercer ou pas. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que cette autorité est réservée à une élite. Ça c'est pour le SWAT, ça c'est pour tel groupe. À une élite, à des élus, à des ministères. Mais non, à partir du moment où vous faites partie de ce corps-là, vous en faites partie. Revenons à l'épître aux Éphésiens, toujours dans le passage, dans les chapitres 2, il est dit que, au verset 6, il nous a ressuscités ensemble, donc en esprit, on est ressuscité, il y aura une résurrection corporelle, ensemble, et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous avez vu, il y a les mots ensemble. C'est pour tous, c'est pas pour une minorité. J'aimerais vous rendre attentif qu'on a une ascension à vivre, spirituellement. Amen. on a une Dieu veut nous inviter à voir plus grand. Dieu veut nous inviter à monter dans les hauteurs avec lui. Parfois, on se voit encore pécheur et on ne se sent pas digne d'exercer cette autorité. Mais est-ce que vous croyez qu'un policier est parfait quand il exerce son autorité de policier? Bien sûr que non. Alors, on attend quand même des policiers qu'ils incarnent un petit peu les valeurs qu'ils véhiculent. Bien sûr, que parce qu'ils font régner l'ordre, et on attend un petit peu une certaine exemplarité, comme aussi du monde politique. Mais nous savons très bien de quoi est faite la patte humaine. Nous savons très bien qu'il y a encore des zones d'ombre aussi à travailler. Mais cela n'empêche pas le policier d'exercer cette autorité déléguée et de le faire lorsqu'il est en fonction. Alors pour nous-mêmes, ne nous laissons pas accuser par l'ennemi qui dit « mais tu ne peux pas exercer cette autorité, tu n'es pas digne ». On a quelqu'un qui intercède pour nous auprès du ciel. Alléluia. Amen. Ah, merci Seigneur de ce que tout vient de toi. C'est toi qui donnes. Mais Dieu ne va pas le faire à notre place. C'est à nous de l'exercer, cette autorité. Est-ce que vous aimez prendre des coups? Parce que je vous assure qu'en face, le camp de l'ennemi, s'il peut nous bourrer de coups, il va le faire. Il va le faire. Il ne va pas hésiter une seconde. Mais parfois, je suis interrogé parce qu'en tant que chrétien, on peut donner des coups. On a l'autorité de le faire. Et on se laisse prendre des coups. Et on prend coup sur coup, alors que lui, il ne se gêne pas en face. Et après, on se dit, mais, oh, Seigneur, oh, je passe par une épreuve. Encore cette épreuve, mais est-ce que c'est toujours une épreuve que le Seigneur permet? Ou est-ce que le Seigneur ne te dit pas des fois, hey, tu as une arme à ton ceinturon, là. Vas-y. Sors-là, exerce-la. Dieu ne va pas faire à notre place. C'est une autorité qu'on peut exercer ou non, tout simplement. Et le Seigneur nous y invite. Alors j'aimerais ce matin vraiment nous stimuler pour nous élever, pour exercer ce que le Seigneur nous a donné. Je termine en disant, qu'est-ce que l'ascension ? J'aimerais redonner quelques pensées par rapport à ça et termine avec ça. L'ascension, c'est l'acquisition définitive et éternelle de notre salut au ciel. C'est ce salut qui est scellé et que rien ne pourra nous séparer de Christ. C'est l'assurance, l'ascension que Dieu peut nous envoyer son esprit alors même que nous sommes encore pécheurs. L'esprit de Dieu cohabite avec notre péché mais nous aide à le vaincre. C'est ça la différence entre un chrétien et un non-chrétien. On reste des pécheurs, mais maintenant nous avons un canal où le Saint-Esprit peut descendre et devenir notre coach. Si nous l'écoutons, si, pas seulement nous l'écoutons, si nous lui obéissons. Et si nous lui obéissons, c'est l'assurance que nous pourrons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire sur le péché. C'est l'assurance que nous sommes cohéritiers avec Christ et que nous sommes assis dans les célestes et que nous pouvons exercer cette autorité qu'il nous donne sur le pouvoir du mal, sur les esprits mauvais. C'est l'assurance de nous détacher de notre héritage adamique et nous faire entrer notre héritage en Christ spirituel. L'état d'esprit de l'ascension, c'est l'état d'esprit de l'élévation. On ne quémande plus, on prend. On ne se lamente plus, on chante de joie. Je ne sais pas pour ceux qui ont des enfants, mon fils le matin quand il prend le petit déjeuner, il va, il ouvre le frigo, il prend le lait, il se sert un verre de lait. Pourtant, il n'a pas payé une seule seconde cette brique de lait. Il n'a rien fait pour la mériter, cette brique de lait. Et il sifflote, il est détendu, il est heureux, et il se sert ce bon verre de lait. Et des fois, parce qu'il est fils, il est filiation, il est mon fils, et il n'a pas mérité une seule seconde ça, mais parce qu'il est mon fils, il a le droit de prendre cette brique de lait chez moi. Il aura de se servir. Des fois, j'aimerais leur rappeler qu'on est quand même chez nous. Des fois, il faut remettre des règles. Pas leur... Parce qu'ils pensent que tout leur appartient, que tout est gratuit. Mais il peut exercer ça parce qu'il est fils. Soyons des fils et des filles. Entrons dans la mentalité de l'ascension. Prenons, saisissons ce que le Seigneur nous donne. Ayons cette mentalité. Vous savez, la mentalité, c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit. Dans une écoute, dans une relation à Dieu, en entrant dans notre statut de fils et de fille. Et ça prend du temps. C'est un changement de mentalité. Le Saint-Esprit va nous y aider. Et nous allons passer de l'héritage en Adam à l'héritage en Christ. Amen. Et tout cet héritage néfaste, tous ces liens générationnels, tout ce qui est du passé, va disparaître de plus en plus. Et nous entrerons dans la vraie liberté des enfants de Dieu. La liberté de se servir dans le frigo un verre de lait. Je vous laisse ça comme méditation. Ou un verre d'autre chose. Pas de soda, c'est mauvais pour... La véritable liberté des enfants de Dieu, c'est pas de sauter, de courir le dimanche matin pendant un chant qui bouge. Il faut arrêter avec ça. La vraie liberté des enfants de Dieu, c'est la liberté sur le péché, sur le mal, de tout ce qui nous empêche d'être heureux. La vraie liberté des enfants de Dieu, c'est de se réjouir plutôt que de céder à la tristesse. La vraie liberté, c'est d'aimer quand on ne peut plus aimer. La vraie liberté, c'est de pardonner quand on n'arrive pas à pardonner. La vraie liberté, c'est de croire quand on doute. C'est ça la liberté des enfants de Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est la liberté de bénir au lieu de critiquer. C'est la liberté de ne plus être esclave de nos addictions. C'est la liberté d'être plus soi-même dans la diversité dans laquelle Dieu nous a créés, libre du regard des autres et du jugement des hommes. Amen. Seigneur, merci pour cette liberté que tu nous offres à l'ascension, qui a été chèrement payée, qui a été durement payée. Puissions-nous recevoir ce matin une nouvelle révélation de ce que représente l'ascension. Merci Seigneur. Tu nous invites à ressusciter avec toi, mais tu nous invites aussi à nous élever avec toi. Fais-nous entrer dans une nouvelle mentalité. Merci parce que conversion, c'est métanoïa en grec, c'est changement de mentalité. C'est ça la vraie repentance. C'est pas demander pardon, mais c'est d'entrer dans une nouvelle mentalité où on est libre du péché et on exerce notre autorité avec force. Et où on va de gloire en gloire jusqu'à te ressembler, Jésus, jusqu'à devenir la stature parfaite du Fils, de l'homme parfait qui est dans le ciel, notre modèle. Amen.